Vous êtes sur RTL.
Optique2000.com.
RTL Matin.
Yves Calvi.
Votre rendez-vous avec Laurent Gérard est dans quelques instants, mais tout de suite, il est 8h42. On s'intéresse à la presse ce matin. Amandine, vous avez choisi deux histoires qui vous ont particulièrement touché.
Oui, celle d'abord de Tahar. Vous vous souvenez peut-être de cet homme qui avait perdu sa femme et son fils de 4 ans dans l'attentat de Nice. Elle, Olfa, était morte sous ses yeux, au sol. Kaylan, le petit, lui, était introuvable. Pendant plusieurs jours, Tahar avait sillonné la ville, remué ciel et terre pour retrouver son petit garçon. Il avait lancé un appel dans les médias, sur les réseaux sociaux, avant finalement d'apprendre la terrible nouvelle le 16 juillet. À l'époque, son cri de douleur devant l'hôpital avait ému le monde entier. Et bien presque 3 ans plus tard, l'association Mémorial des Anges a annoncé hier soir son décès. « Mourir d'aimer », écrit-elle sur sa page Facebook. La Sûreté départementale enquête sur les causes de sa mort. Mais quand on lit le témoignage de sa nouvelle compagne, on comprend la détresse de ce papa. « Il n'allait pas bien », raconte ce matin Rachel dans les colonnes de Nice Matin. « J'ai tout fait », poursuit-elle, « tout pour apaiser ses souffrances, mais je n'ai pas réussi rien, pas même les médicaments ne lui permettaient de surmonter une telle épreuve. Au début, il se laissait aller, ça a été dur de le relever, et puis on s'est aimé, mais ces derniers temps, explique-t-elle, je l'ai senti fatigué. La semaine dernière, il m'a dit qu'il avait fait un rêve. Olfa, son épouse, l'appelait au téléphone. Elle lui disait que Kaylan pleure son papa, qu'elle ne peut plus le tenir, qu'il faut que je vienne. Rien qu'en lisant ces mots, forcément, on est ému. Ses proches, eux, s'interrogent. On parle de Tahar aujourd'hui, mais combien de personnes se sont foutues en l'air ou ne vivent plus depuis ces attentats ? Ces gens-là ne sont pas assez suivis, lâche l'un d'entre eux. Anne Meurice, qui, elle, a perdu sa fille dans l'attentat de Nice, en appelle désormais à l'État, au pouvoir public. La prise en charge des victimes montre, dit-elle, ses limites face à la souffrance humaine. Et de conclure, les dégâts peuvent survenir longtemps, très longtemps après. L'autre histoire qui m'a touchée ce matin, elle se passe cette fois-ci au Japon. C'est celle des rescapés du tsunami de 2011 qui ont trouvé un moyen étonnant de faire leur deuil. Une cabine téléphonique pour parler aux morts. Alors ça va peut-être en faire sourire quelques-uns, mais cette cabine, installée dans le nord-est du pays, est devenue, figurez-vous, un véritable lieu de pèlerinage pour des milliers de personnes qui ont perdu un proche dans la catastrophe, c'est-à-dire dans l'Ops cette semaine. À l'autre bout du fil, personne. Cette cabine est installée au beau milieu d'un jardin, paisible, elle n'est reliée à rien, et pourtant elle est devenue une thérapie. Doane Bui, la journaliste qui s'est rendue sur place, raconte notamment l'histoire de cette petite fille qui a perdu son papa. Jamais, depuis des années, elle n'avait réussi à évoquer le drame. Une fois dans la cabine, la fillette prend le combiné, elle pleure, mais elle s'adresse à lui. « Papa, dit-elle, tu te souviens, tu m'avais promis de m'acheter un violon. Je n'en ai jamais eu. À la place, poursuit-elle, j'ai commencé le tennis, je suis nulle, mais j'espère devenir meilleure. Encourage-moi. » D'autres laissent un message sur le cahier du téléphone. 10 tomes ont déjà été noircis. Certains viennent de très loin. Mathieu, par exemple, il a fait le voyage des États-Unis. Lui a perdu sa grand-mère dans le tsunami. Dans la cabine, il lui lit sa lettre en anglais. Mais qu'importe, au-delà des barrières, les barrières de la langue n'existent plus. Ce téléphone, explique la journaliste, on l'appelle le casé-no-dénois, le téléphone du vent. Celui, écrit-elle, qui porte les soupirs des défunts, les murmures des fantômes de nos aimés et de nos disparus. On le doit à un septuagénaire, Hitaru Sasaki. Cette cabine, il l'avait construite dans son jardin, juste avant le tsunami, après la mort d'un cousin. Pour vivre, explique-t-il, on a tous besoin de se raconter des histoires ensemble. Mais quand un proche meurt, c'est un bout entier de cette histoire qui disparaît. Alors notre rôle à nous, les vivants, dit-il, c'est de continuer la conversation, d'où l'idée du téléphone. C'est à la fois poétique, mystique, presque philosophique. Voilà en tout cas longtemps, très longtemps, que je n'avais pas eu les larmes aux yeux en lisant un reportage. En plus, c'est bien écrit, lisez-le, c'est dans l'Obs cette semaine.
Merci d'avoir continué la conversation ce matin.